Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent, passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité a, au gré du temps, occupé plusieurs fonctions et fut notamment éditorialiste et responsable des pages financières au Devoir pendant 10 ans. Il s'est hissé au sein de la haute direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec en devenant même le président de CDP Capital, la division regroupant plus de 125 milliards de dollars d'actifs. Il a surtout, et c'est peut-être le rôle dont on retient le plus au cours des dernières années, celui qu'il a occupé, il a cofondé l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées, nommément appelé IGOP. Avec grand plaisir, nous accueillons Michel Nadeau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez fait, quand on regarde votre parcours, Michel, c'est un parcours très sinueux. Vous avez pris plusieurs chemins. Vous avez fait une route qui n'était pas rectiligne.
Parce que j'étais intéressé à la base dans ma famille. Quand j'ai été élevé, mon grand-père était organisateur politique et il organisait des combats de boxe à Saint-Sauveur.
Ah oui.
Et lorsqu'il y avait des campagnes électorales, ses poulains boxeurs l'aidaient à convaincre les indécis. Nous étions sous Duplessis dans l'Union nationale.
Oui. Une drôle de façon de convaincre.
Oui, c'était des arguments frappants. Et moi, j'ai toujours été frappé par le pouvoir, l'influence. Je me suis dit, où trouver le pouvoir? Au début, je me suis dit, c'est l'information. Donc, j'ai fait Sciences Po, le MBA, et à Laval, mon lieu d'origine, ma ville d'origine, Québec, mais que j'ai quitté, que je trouvais ça beaucoup trop paroissial, après une année à Paris. Et là, je suis allé au Devoir durant 10 ans, et là, j'ai fait le plus beau métier du monde, le métier de journaliste, vulgarisateur. Je suis un vulgarisateur dans l'âme, et puis, ça a été extraordinaire.
Vous êtes tout de suite dirigé en journaliste vers le milieu des affaires.
C'est ça. Mais au début, c'était la diffusion de l'information, c'était la communication, donner aux gens la conscience. Moi, il y a un bonhomme, Maurice Pinard, un politicologue de l'Université McGill, avait dit, le jour où les Québécois auront confiance en eux, dans leur économie, sur le plan économique, ils pourront faire les choix politiques qui leur conviennent. Donc, l'indépendance. Donc, j'ai fait 10 ans au Devoir, et là, je me suis dit, non, c'est pas ça, le pouvoir, c'est pas dans l'information. Allons voir dans le monde des affaires. Et là, je suis passé 20 ans à la Caisse, où là, j'ai été artisan. C'est moi qui ai convaincu personnellement Pierre-Carl Péladeau d'acheter Vidéotron. J'ai été dans beaucoup de transactions, les grosses transactions du Québec King, j'y étais associé. Et finalement, je me suis dit, non, c'est pas le monde des affaires, c'est pas l'information, c'est la gouvernance, c'est les conseils d'administration, c'est le pouvoir est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est là que j'ai fondé l'IGOP en 2004.
Ce désir, vous parlez beaucoup de pouvoir, ce désir était là dans votre prime jeunesse?
Oui, parce que je me disais, au début, dans mon enfance, j'ai fait une école, j'ai une famille normale. Ma mère était une femme extraordinaire. Mon père était jeune de caractère, qui buvait parfois. Mes parents se chicanaient un peu.
Une famille quand même nombreuse, 7 enfants.
7 enfants, oui. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. À un moment donné, j'avais trop de pression. Je suis allé partir de moi-même à Victoriaville, où là, j'ai vécu une époque extraordinaire avec le docteur René Jutras, chef du regroupement national. Et là, à Victoriaville, j'ai fait mes débuts à la radio, à CFDA, La Voix des Bois Francs. Or, donc, le mardi soir, après le chapelet, j'avais une chronique de 15 minutes sur différents événements étudiantins pour étudiants. Et je faisais du militantisme étudiant avec Bernard Landry. Et puis, évidemment, on se battait. Nous étions des jeunes citoyens à part entière. Or, donc, on réclamait non seulement la gratuité scolaire, mais la rémunération. Or, donc, quand je vois Nadeau-Dubois aujourd'hui réclamer l'indexation, je me dis, c'est des combats d'arrière-garde. Fallait la gratuité scolaire et la rémunération des étudiants.
Une chanson qui résume bien cette époque que vous nous proposez, c'est celle de Claude Léveillé.
Frédéric.
Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, bon ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux et tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des âmes en ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie, à du bel arlequin. Tu vois qu'on t'a menti, écrouler nos châteaux, adieu nos clairs de lune. Après tout, faut ce qu'il faut pour s'en tailler une. Une vie de bon vivant, une vie sans argument. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Tu te rappelles, Frédéric? Salut!
Avec nous aujourd'hui, Michel Nadeau. Vous avez évoqué le nom du docteur René Jutras. On n'en parle pas beaucoup dans nos livres d'histoire, mais c'est quelqu'un qui a été important. Il a fondé le regroupement national, le RN, il en est même devenu le président, avec quelques autres dissidents du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le fameux RIN. Il y avait entre autres Jean Garon, Marc-André Bédard, qui est décédé il y a quelques mois. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que docteur Jutras, par la suite, s'est retiré du militantisme et il est mort dans de drôles de circonstances, tué par un malfaiteur qui venait cambrioler sa résidence. Il y a des fins parfois étranges.
Oui, c'est ça. Le docteur Jutras était quelqu'un... Évidemment, moi, j'étais à Victoriaville et je m'occupais beaucoup d'activités étudiantes. Je m'occupais de la radio locale. Le matin, j'avais un collègue qui lisait les nouvelles que je triais en ayant reçu le Nouvelliste à 6h20. Or donc, je présentais pour tous les résidents dans le pavillon des étudiants du Collège des Frères Sacré-Cœur de Victoriaville. Or, donc, je m'impliquais beaucoup et l'homme qui était très connu, à part Jean Béliveau et Réal Caouette, qui était originaire de Victoriaville aussi, c'était René Jutras. Or donc, pour moi, l'occasion de frôler avec le pouvoir, l'influence, et c'est pour ça que j'ai découvert avec le temps que le pouvoir est moins important que l'influence. Et je pense que le cardinal Richelieu avait beaucoup plus d'influence que beaucoup de rois Louis XIII, XIV, XV, là. Et en ce sens-là, c'est pour ça que j'aimais beaucoup la fréquentation du docteur Jutras, le samedi soir, au lieu d'aller à l'hôtel central d'écouter Michel Richard, comme plusieurs de mes confrères, je travaillais avec le docteur Jutras pour essayer de me sensibiliser. Évidemment, je voyais qu'il y avait des valeurs de droite. J'étais pas d'accord avec toutes ces idées-là.
Associé peut-être à Lionel Groulx, à la pensée
oui,
Lionel Groulx.
C'est ça, une pensée assez restreinte. Et pour moi, le nationalisme, ça va, c'est une ouverture sur le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2021, il faut redéfinir le nationalisme à l'échelle planétaire, dans un monde numérique, dans un monde tout à fait différent de celui que nous avions en 1965-66. Donc, le docteur Jutras me permettait comme ça de travailler, de réfléchir sur le Québec, de voir quelles étaient les possibilités. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'allais essayer les sciences politiques. Donc, je suis allé en sciences politiques en 1967 à l'Université Laval.
Vous avez pris votre envol, c'est peut-être la raison pour laquelle vous nous proposez cette chanson de Michel Sardou.
Oui, c'est une chanson évidemment qui a été beaucoup jouée dans un film sur une personne qui a un problème d'audition et que j'adore. Michel Sardou est probablement mon chanteur préféré.
Et cette chanson avait d'ailleurs été reprise pour ce film par une chanteuse qui a pour titre Loane. Alors je pars, je vole, Michel Sardou.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade, pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien, tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner. S'éloigner un peu plus, il y a la gare. Et après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre cette espèce de cage qui me bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Or, surtout ne pas se retourner ni des yeux ni de la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi et où et comment. Il est 7h05. Je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Oh, surtout ne plus se retourner. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
Enfin, Michel Nadeau est avec nous. Michel Nadeau, vous parliez tantôt de pouvoir et vous avez dit « ce qui m'intéressait davantage, c'était la capacité d'influence ». Vous avez connu des professeurs qui ont été inspirants et qui ont évidemment joué d'influence auprès de vous. Je pense à des gens comme Léon Dion, Vincent Lemieux ou encore Gérard Bergeron.
Oui, c'était pour moi, l'Université Laval, les sciences politiques, c'était une classe formidable. Nous étions avec Jean-Claude Picard, Micheline Paradis, Jean-Claude Picard qui était longtemps au Soleil, Micheline Paradis qui était au Soleil et au Mouvement des Jardins. Il y avait André Arthur, mon collègue André Arthur, qui lisait les ouvrages du vice-président de Nixon, Agnew, Spiro Agnew. Et donc, on avait de très bons débats. Et il y avait également Claude Morin, qui, le lundi matin, rentrait d'Ottawa d'une conférence fédérale provinciale, nous rencontrait, nous racontait les détails. Donc, avec ces professeurs-là, ce qui m'ont donné le goût, c'est de m'impliquer socialement. Que pour moi, la recherche universitaire ne devait pas se faire entre des murs de façon ésotérique. Elle devait être très, très impliquée. Or, c'est pour ça que, lorsque, après mes études en sciences politiques, j'ai fait mon MBA. Et durant mon MBA, j'ai écrit un livre sur l'industrie de l'artisanat au Québec en allant dans le Grand Nord en développant la sculpture Eskimo. J'ai fondé le premier salon de l'artisanat du printemps qui s'est tenu à l'Université Laval et dont récemment on m'a invité comme fondateur. J'ai également organisé avec plusieurs personnes, dont un collègue Jean Houd, président du Conseil de la Banque nationale, le Congrès des affaires québécoises pour préparer un socialisme d'ici. Imaginez mes collègues du MBA là, qui étaient scandalisés qu'une faculté de MBA parle de préparer un socialisme d'ici.
Vous avez dit un peu comme Gérard Bergeron. Je reviens sur Gérard Bergeron parce qu'on sait que Gérard Bergeron a été un grand théoricien de la politique, des sciences politiques, et il s'est beaucoup attardé particulièrement au phénomène de la guerre froide, de ce capitalisme versus le socialisme. On se reporte dans les années 50 où cette guerre froide était à son apogée, si j'ose dire. Et curieusement, M. Bergeron a fait incursion dans le journalisme, un peu comme vous d'ailleurs. Oui. Son influence a quand même été importante dans
votre
cas.
Oui, c'est important parce que moi, ce qu'il m'a appris, M. Bergeron, c'est que tous les élus, les chefs politiques sont d'abord et avant tout au service de leur nation. C'est pas vrai qu'une femme, un homme politique va travailler pour la justice dans le monde. Il est d'abord au service des gens qui l'ont élu.
Parlant de justice, on va faire une incursion dans un monde plus spirituel et vous allez comprendre pourquoi nous allons entendre les moines du chœur de l'abbaye de Cœur Moussa. Ils proviennent du Sénégal et je suis certain que cela signifie quelque chose pour vous. Voici donc « Du bout de la terre, je t'appelle ». C'est le psaume 60, interprété par le chœur des moines de l'abbaye de Cœur Moussa du Sénégal.
Assis à sa grande amour.
Vous avez compris l'allusion au Sénégal. Vous pourriez nous en dire quelques mots?
Évidemment, ma conjointe est sénégalaise, Maître Lydie Olga Ntap, que j'ai rencontrée maintenant il y a 20 ans. Avec elle, nous avons fait de nombreux voyages au Sénégal. Elle a créé une boutique qui s'appelait Romance Boutique. Nous achetions des robes de mariée sur Saint-Hubert. J'ai acheté une partie de la faillite de Classy des Tuxedos et nous revendons ça. Romance Boutique habillait toutes les futures de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avions une boutique qui allait très, très bien. Mais à un moment donné, évidemment, ça nous obligeait à des voyages puis à certaines façons de faire des affaires en Afrique qui n'étaient pas tout à fait orthodoxes. Quand le percepteur d'impôts venait me voir, me disant « Monsieur Nadeau, voulez-vous un rapport oral ou écrit pour vos impôts? » Le rapport oral, il mettait une enveloppe sur la table, il s'en allait à la salle de bain, et lorsqu'il soupesait, il allait plusieurs fois à la salle de bain, lorsqu'il soupesait l'enveloppe, qu'elle était suffisamment lourde, mon rapport d'impôt oral était complété, et donc j'avais l'esprit libre pour la prochaine année fiscale.
Est-ce cela le pouvoir du pouvoir?
C'est le pouvoir du pouvoir, c'est la possibilité de faire des choses selon nos valeurs. Moi, j'ai toujours cru en trois grandes valeurs. La première, c'est la conscience. Je pense qu'il faut, c'est pour ça que je me définis d'abord comme un vulgarisateur, donner aux gens la conscience, leur faire comprendre qu'ils sont des gens bien, qu'ils sont des gens importants. Donc, la conscience de ce que nous sommes, la conscience individuellement et collectivement.
Mais si vous aviez été conseiller de Donald Trump, auriez-vous été apte à transmettre cette conscience?
Non, parce que je pense que M. Trump donne un spectacle. Alors que quand on...
Mais il exerçait beaucoup de pouvoir.
Oui, mais effectivement. Mais moi, je pense que ce que je veux, c'est donner aux gens la conscience de prendre les moyens pour s'en sortir. Cette conscience-là, elle ne doit pas être radicale. C'est pour ça que je mets comme deuxième valeur l'humour. Il faut faire dans les choses... J'ai toujours essayé de faire de l'humour, de ne pas trop se prendre au sérieux. Évidemment, j'ai été souvent tenté par la politique. Madame Marois, bienvenue, est souvent venue à mon bureau pour me solliciter, et d'autres politiciens. Mais j'ai toujours hésité parce que je voulais garder cette distance avec l'humour, et ça, je trouvais que c'était très important. Et finalement, je pense que la tendresse. Je pense que la tendresse est importante parce que c'est la non-violence. Je pense qu'on doit être conscient de ce qu'on est, on doit rire de ce que nous sommes, on doit militer, on doit travailler très fort pour le développement économique. Je crois beaucoup. Le Québec, depuis 60 ans sur le plan économique, a fait ce que probablement aucun autre pays au monde a fait en termes de progrès entre 1960 et 2021. Et ça, on le fait toujours de façon pacifique, avec tendresse.
Où placeriez-vous la prochaine chanson dans vos trois valeurs, celle de Paul Piché que vous nous proposez, l'escalier?
Ben, Paul, évidemment, c'est un mélange des trois. Paul, c'est l'intelligence, la maturité d'un homme. C'est en même temps, il y a un certain... Il ne se prend pas trop au sérieux, Paul Piché, dans certaines de ses chansons, mais c'est toujours un homme extrêmement tendre et c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps.
Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, je remontais, parce que sans raison, j'allais devant, j'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'est apparent dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il n'y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon. La bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson me pose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments, de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes, qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais, c'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand ceux qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu quand j'ai compris que je suis venu. Pas mordu, je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris que je suis revenu, quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier, je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé.
L'escalier, Paul Piché, proposé par Michel Nadeau, celui-là même qui a créé, avec un de vos grands amis, Yvan Allaire, l'Institut de la gouvernance.
Oui, disons que d'abord, il y a eu un séjour à la Caisse de dépôt. J'ai passé 20 ans à la Caisse. Et après 20 ans, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Je ne voulais pas, ça devenait facile à la Caisse. J'ai eu des années merveilleuses avec Jean Campeau, avec Jean-Claude Scraire. Un peu plus difficile avec M. Delorme et Savard. C'était plus houleux.
Étiez-vous là du temps d'Henri-Paul Rousseau?
Non. Quand M. Rousseau est arrivé, nous avons constaté, lui et moi, que nous n'avions pas les mêmes valeurs. Moi, je travaillais pour développer le capital en région. Je travaillais pour développer des bureaux de la Caisse à l'étranger pour permettre aux Québécois d'aller apprendre à l'étranger. J'étais président d'une filiale. Nous gérions l'argent de l'armée hongroise. Et évidemment, je faisais des conseils de gouvernance avec tous des militaires qui avaient leurs fusils. Ils me disaient, Monsieur Nadeau, si vous avez des problèmes avec certaines des entreprises hongroises, on va s'en occuper des problèmes de gouvernance. Évidemment, je faisais faisait très attention parce que on retrouvait souvent le patron avec un bloc de béton au fond de du Danube. Donc pour moi la caisse était un merveilleux outil de rayonnement international et en même temps de développement régional. Mais je pense que M. Rousseau n'avait pas cette vision du rôle de la caisse et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter la caisse pour ensuite me lancer dans l'aventure de la gouvernance.
On va poursuivre sur votre rôle au sein de la caisse, mais auparavant, j'aimerais vous proposer une chanson d'une chanteuse qui n'est peut-être pas très connue ici, qui a pour nom Nena Venetianiou. Elle est grecque, c'est une auteure, compositrice et interprète. Pourquoi elle? Parce qu'elle a beaucoup milité, elle a beaucoup cru au militantisme, particulièrement pour la défense des droits des femmes. Alors, elle joue le piano depuis l'âge de 6 ans et a mis son art au service du militantisme, si j'ose dire. Mais ses interprétations sont raffinées et on peut dire qu'elle renouvelle la chanson grecque en donnant une grande impulsion au style en techno. C'est un chant artistique à texte poétique. Donc, comme vous le disiez, M. Nadeau, très tendre. Voici donc Nena Venetianiou qui nous interprète Ne'Hadji, qui veut dire « Du bout de ses doigts, la lumière coule, un de ses doigts roule son opale. » avouer que c'est une belle voix.
Oui.
Et cette chanson, bien sûr, elle était chantée en grec, mais ce qu'elle raconte, entre autres également, c'est qu'il y a toujours des petites voix transparentes qui s'échappent et qui s'échappent comme étant le fruit inconnu d'une réflexion constante que nous pouvons avoir. Est-ce que vous avez, vous, cette réflexion qui est toujours omniprésente?
Oui, moi, j'ai toujours la réflexion d'agir, de passer à l'action. Peut-être que dans ma vie, j'ai été trop un homme d'action. Si je regarde maintenant, j'ai toujours cherché. Je ne voulais pas focusser ma carrière sur une vie politique. J'ai trop connu de politiciens qui étaient de mauvais pères de famille, qui étaient de mauvais conjoints. Et ça, je me suis dit, je ne tomberai pas. Donc, mon objectif, c'était d'être une bonne personne. Une bonne personne comme père de famille, comme conjoint, comme citoyen, comme membre d'une communauté, comme parmi mes frères et sœurs, mon frère Jacques.
Que nous avons reçu d'ailleurs, Jacques qui est photographe pour Le Devoir.
C'est ça, mon frère Jean-Pierre qui était 40 ans chroniqueur culturel au Journal de Québec. Donc, c'est, pour moi, l'objectif, c'est cet équilibre dans toutes les facettes de notre vie. Donc, il y a des petites voix qui me disaient, moi, je dois être un bon papa, un bon mari, un bon conjoint et en même temps un bon travailleur, pour un bon citoyen du Québec. Je rêve et je crois toujours au Québec. Je crois que les Québécois, si le projet politique du Québec aboutit, tant mieux. Mais ce que j'ai toujours cru, moi, c'est l'importance que les Québécois prennent confiance, prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire. Et ça, j'ai trouvé merveilleux. On n'a pas de pays en 2021, mais on a réussi des progrès extraordinaires dans le développement financier et économique au Québec. En 60 ans, il y a probablement très peu de pays qui ont accéléré autant que nous. En 1960, tous les patrons étaient britanniques, anglophones, américains, alors que maintenant, il y a beaucoup, la majorité sont francophones. Nous avons rattrapé le temps perdu, nous avons bâti de grandes entreprises. On en a perdu certaines, mais on les a bâties pareil.
Peut-être parce que nous sommes en amour les uns les autres, comme le dirait Patrick Normand.
Exactement.
Que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Dans ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient. En bohème, tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins
toi. Tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs. Écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être.
Quand on est en amour, Patrick Normand, une chanson proposée par Michel Nadeau. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le choix?
C'est que Patrick Normand, c'est un chanteur simple, western. J'ai toujours aimé la chanson western parce que c'est la solitude. C'est le cowboy solitaire. Il y a un côté sympathique.
Vous définissez-vous comme un solitaire vous-même?
Oui, j'ai un côté solitaire. Moi, je me rappelle des samedis soirs, alors que les samedis après-midi, mes confrères aller à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca pour faire ce qu'on appelait la levée de la garde, c'est-à-dire de chercher des infirmières pour passer la soirée à l'hôtel central de Victoriaville. Moi, je préférais, j'étais moins, plus casanier. Souvent, dans la résidence, il y avait une petite lumière, c'était la mienne. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des pensées, je préparais des devoirs.
Alors, vous n'étiez pas du genre Casanova, là?
Non, ça n'a pas été mon style. Je pense que les conquêtes féminines n'ont jamais été pour moi un exercice stimulant. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des femmes extraordinaires dans ma vie à certains moments, et puis avec qui j'ai vécu des moments très intenses, très beaux, magnifiques, qui m'ont laissé de merveilleux souvenirs. Particulièrement ma femme actuelle, Lydia Olgan-Tapp, avec qui, depuis 21 ans, on a découvert le monde. On est allé partout sur la planète, notamment à Bora Bora, en Polynésie, où nous sommes tombés en amour avec Maman Rosina, la pension Rosina. Donc, j'ai vécu de belles choses, et je crois que pour moi, ça me comblait. J'essayais d'être un bon conjoint.
La vie en rose, Édith Piaf?
Oui, c'est l'amour, ça fait mal, ça fait souffrir, mais rien ne vaut l'amour.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
c'est une chanson éternelle, ah, La vie en rose, oui, d'Édith Piaf.
Ma fille a 14 ans et elle a choisi cette chanson-là pour présenter à sa classe. Là, alors que les autres, c'était Beyoncé et tout ça. Mais elle, c'était la chanson 14 ans et qui, pour elle, c'était ça.
Et je vois que le domaine des arts, de manière générale, la chanson, même si vous n'étiez pas de ceux qui allaient danser le samedi soir, vous avez quand même toujours été très sensible à l'expression artistique.
Oui, parce que j'avais, lors d'un voyage en Europe durant mes études, je voyageais, je travaillais durant l'année, j'organisais des danses au centre Monseigneur Marcoux. Alors, je faisais venir des groupes. J'ai fait venir un groupe de jeunes qui s'appelait alors les Baronnets. Et là, il y avait un dénommé René Angelil avec qui j'ai négocié les honoraires de la soirée de façon assez robuste. Et puis, donc, je ramassais des sous. Durant l'été, je voyageais en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras et tout ça, ou en Europe. Et là, en Europe, j'avais rencontré un Suédois qui m'avait dit « La richesse d'une rencontre, c'est quand la personne est très différente de ce que tu es. » Or, c'est pour ça que moi, la première femme dans ma vie était une comédienne. Était une comédienne, Carole Paquin, qui a joué au théâtre Jean Duceppe, que j'allais voir chaque soir. J'ai écouté 55 fois les 10 dernières minutes de la mort d'un commis voyageur.
Vous avez été chauffeur pour Jean Duceppe.
J'avais été chauffeur pour Jean Duceppe parce que M. Duceppe avait une émission à CKAC le matin. Or, donc, avec Carole, on allait le reconduire et on le ramenait après l'émission. Or, je conduisais et M. Duceppe dormait sur la banquette arrière. Et M. Duceppe, qui demeure pour moi le plus grand comédien de l'histoire du Québec. Et je trouve que Willy Loman, la mort d'un commis voyageur, c'est cette histoire d'un père qui essaie d'être à la hauteur devant ses enfants, mais qui n'arrive pas. Il ment. C'est toujours ce que j'ai cherché à éviter, d'être à la hauteur, de ne pas mettre la barre trop haute et surtout de ne pas parier sur la richesse. La richesse, l'argent. L'argent est venu pour moi. Je n'ai pas de problème financier aujourd'hui, mais j'ai toujours dit je veux faire ce que je fais. J'aime faire ce que je fais. Pour moi, la première chose, la première qualité que je cherchais, c'est de faire ce que j'aime puis d'être bon dans ce que j'aime. C'était les deux conditions. Et si ça payait, troisième condition, ben tant mieux. Mais je suis rentré au devoir. M. Ryan m'avait offert 125 $ brut. 98 net en 1973. J'étais le MBA au Québec, le moins bien payé. Mais j'adorais mon travail au devoir avec René Rohan, avec Laurent Laplante, avec une équipe formidable, Michel Roy. Donc, ça a été des années magnifiques, de très, très belles années qui, malheureusement, n'étaient pas très rentables sur le plan financier.
Mais au plan intellectuel, l'étaient beaucoup.
Extrêmement stimulant.
Michel Nadeau, on a tellement de choses à se dire. Entre autres, il faut revenir sur vos bons coups, la caisse de dépôt. On va vous inviter à nous revenir la semaine prochaine, parce que le temps a déjà écoulé pour cette première heure. Ça passe vite en votre compagnie.
Merci bien.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de notre bon ami Pierre de Gagné. Nous vous quittons avec une belle chanson, encore une fois, d'influence sénégalaise, parce qu'on va entendre Youssou N'Dour, que vous adorez sans aucun doute.
C'est le plus grand chanteur sénégalais.
Oui, et qui a été ministre d'ailleurs, qui a touché à la politique. Et qui chante avec Nena Cher, une composition qu'ils ont faite tous les deux ensemble. La chanson a pour titre 7 secondes. Et ce qu'elle raconte, parce qu'elle est chantée en plusieurs langues, en Wolof, en anglais, en français, c'est les 7 premières secondes de vie d'un être humain, alors qu'il est encore libre de toutes les invasions barbares qu'il aura à connaître durant sa vie. Le temps de vous dire donc au revoir et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Should be thinking, so you better sober up for just a second. second, we're 7 seconds away. Oh, just a